Salut à tous, vous êtes sur Radio Calcin 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Marie,
Léo,
Monsieur Dobard
et moi-même Lou. Alors aujourd'hui, on va poser des questions à Monsieur Dobard sur Hambourg. Ah oui, alors où se trouve Hambourg ?
Alors Hambourg est une ville dans le nord de l'Allemagne. L'Allemagne est actuellement composée de 16 États, c'est-à-dire 16 régions. Et Hambourg n'est pas l'État le plus au nord. Le plus au nord, c'est le Schleswig-Holstein, qui a une frontière commune avec le Danemark. Et Hambourg est juste en dessous, juste au sud du Schleswig-Holstein. Et Hambourg a une particularité, puisque je viens de dire que l'Allemagne possède 16 États. Et parmi ces 16 États, 3 sont des villes-États. Hambourg fait partie de ces 3 villes-États. La première est Berlin. La deuxième est Hambourg et la troisième est Brême. Et il faut savoir que Hambourg est la deuxième ville d'Allemagne. La première, c'est Berlin et la deuxième, c'est Hambourg.
Bah, du coup, vous avez répondu à la deuxième question. Quelles sont ses particularités ?
Alors, des particularités,
il y
en a d'autres. C'est une ville hanséatique, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il y a eu une ligue de commerçants dans l'Europe du Nord. On a des villes comme Rostock, Lübeck, etc., et Hambourg qui en faisaient partie. Et cette ville a gardé ce statut, ce qui lui a permis d'être protégée par l'empereur au cours de l'histoire, mais aussi après de devenir cette ville-État. Et alors, elle a une grosse particularité par rapport à d'autres villes que nous pouvons connaître qui sont également des villes portuaires, puisque Hambourg est très connu pour son port. Et bien que Hambourg soit à 100 km de la mer, Hambourg est quand même doté d'un port maritime, c'est-à-dire que des gros bateaux remonte de la mer du Nord, remonte l'Elbe. L'Elbe, c'est le fleuve qui coule à travers Hambourg. Donc les gros bateaux remontent l'Elbe, font 100 km dans les terres pour venir dans le port de Hambourg. Donc ça veut dire que l'Elbe doit être très, très, très profonde pour accueillir ces tankers. Par le passé, il y a eu un paquebot en France qui s'appelait Le France, qui ensuite a été vendu et qui est devenu le Norway, puisqu'il avait été racheté par la Norvège. Et je me souviens avoir vu le Norway dans le port de Hambourg, alors qu'avant, la première fois que je l'avais vu, c'était dans le port du Havre, donc une ville portuaire au bord de la mer. Donc voilà une particularité importante de la ville de Hambourg.
Donc vous avez un peu déjà répondu aussi à cette question-là. Pouvez-vous résumer l'histoire d'Hambourg ?
Alors, j'ai répondu qu'en partie, parce que Hambourg commence très très tôt dans l'histoire par une petite cité au bord de l'Elbe qui s'appelait Hammerburg, avec une petite construction sur une colline. Il faut savoir que nous sommes dans la plaine du Nord, le nord de l'Allemagne. Ce que Brel appelle, lorsqu'il chante la Belgique, le plat pays, eh bien c'est la même chose. Quand vous prenez l'autoroute, par exemple, entre Hambourg et Berlin, il y a 300 km, ben c'est 300 km de plaine, c'est monotone au possible. Donc là, juste à côté de l'Elbe, il y avait un petit monticule de terre et ils ont construit un petit fort à cet endroit-là. Et puis, petit à petit, ben, effectivement, ça s'est développé au point de devenir une ville importante au Moyen-Âge, avec la Hanse dont je parlais tout à l'heure, et de devenir aussi une cité avec une vocation impériale, puisque, je le disais déjà aussi, l'empereur leur a permis d'avoir un statut à part, d'être une ville hanséatique libre. Donc c'est une ville qui a su développer le commerce, qui a su développer les relations avec l'extérieur, et puis qui a su s'étendre tout alentour. Et puis il y a eu une période beaucoup plus sombre dans l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale. Hambourg est aussi une ville industrielle, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Anglais, espérant mettre le Troisième Reich à genoux, ont beaucoup bombardé les villes, et notamment la ville de Hambourg. Hambourg a été bombardé pendant l'été 43, fin juillet, début août 43, pendant 10 jours, nuit et jour, et a été détruite à 65%. C'est le côté le plus sombre de l'histoire de la ville, puisque certains quartiers de la ville proches du port ont été détruits à 100%, comme Hamabuok. Et quand on lit l'histoire de la ville, on s'aperçoit que dans Hamabuok, les bombes qui ont été lancées étaient des bombes au phosphore. Et le phosphore a cette particularité de s'enflammer au contact de l'air. Et ce qui fait que... il y a eu aussi des bombes avec des liquides incendiaires qui sont descendus jusque dans les caves, ce qui fait que les caves ont pris feu, les caves dans lesquelles les gens s'étaient réfugiés. Les gens ont été obligés de sortir pour essayer de survivre. Ça a été très difficile parce qu'ils ont été tués par d'autres explosions ou le contact du phosphore. Certaines personnes qui ont eu du phosphore sur la peau ont plongé dans les canaux, puisque Hambourg fait partie de ces villes qu'on appelle la Venise du Nord. Il y en a plusieurs. Il y a Amsterdam, mais il y a aussi Hambourg, puisqu'il y a plus de ponts à Hambourg qu'à Venise. Et donc ces personnes sautaient dans les canaux pour essayer de sauver leur vie, mais le phosphore restant sur leur peau, à chaque fois qu'elles ressortaient de l'eau pour espérer pouvoir respirer, elles s'enflammaient de nouveau. Donc il a fallu malheureusement les abattre. Et la ville a eu, comme je disais, bon nombre de quartiers qui ont été totalement détruits, voire... pour certains, très, très endommagés. Et la population a énormément souffert de cette période. Donc là, d'un point de vue historique, c'est la période la plus terrible de l'histoire de la ville.
D'accord. Quels sont les endroits touristiques à Hambourg les plus visités ?
Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et tout dépend de ce à quoi on s'intéresse. Ce qui est très souvent le premier centre d'intérêt pour les gens, c'est de voir le port, puisqu'il n'est pas courant de voir un port maritime en plein milieu des terres, comme ça. D'autre part, il y a, je vous disais que l'Elbe, le fleuve qui traverse Hambourg, est un fleuve très profond. Et il y a un tunnel très important qui a été construit à la fin du 19e, début 20e siècle, si je me souviens bien, qui est un tunnel sous l'Elbe. Alors maintenant, il y en a plusieurs, mais celui-ci, c'était le premier. Et on y accède encore par ascenseur, etc. Et tout est resté en l'état. Bien sûr, on vérifie régulièrement l'étanchéité, il est remis aux normes. Mais il est resté quand même en grande partie dans son état primitif, ce qui fait que d'un point de vue historique et d'un point de vue technique, c'est très intéressant. D'autre part, il y a au milieu de Hambourg, deux lacs, le Binnen- et Außenalster. Binnenalster, c'est l'Alster intérieur, et le Außenalster, l'Alster extérieur. L'Alster, ce sont deux grands lacs sur lesquels on peut faire du bateau, etc., et qui sont alimentés par un petit ruisseau qui devient une petite rivière qui s'appelle l'Alster. Et tout autour, il y a tous les quartiers avec les consulats, etc., de très riches maisons. Il y a l'Institut français, par exemple, qui est là, le consulat de France. Et on peut y faire une très, très belle promenade. On peut y faire du vélo, on peut y faire du sport, on peut faire plein de choses. C'est une ville qui est aussi très verte et qui dispose de bon nombre de musées. Vous avez, par exemple... eh bien, comme à Paris, un musée Grévin, alors ça s'appelle le Panopticum, mais il est un peu plus petit qu'à Paris, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. Vous avez à l'université, puisque Hambourg est doté d'une université, un musée des sciences naturelles qui est vraiment très, très intéressant également. Vous avez la tour télé. Les villes allemandes sont dotées souvent d'une tour télé. Alors, pour ceux qui connaissent Stuttgart, c'est la première tour télé qui a été construite en Allemagne. Celle de Hambourg n'est pas la première, mais elle avait une particularité lorsque j'y vivais, il y a de nombreuses années maintenant. Entre 15h et 16h, on payait son droit d'entrée. Et puis, on montait dans l'ascenseur. Et l'ascenseur nous conduisait tout en haut de cette tour télé où il y avait un restaurant qui, en une heure, faisait une rotation complète. Ce qui nous permettait d'admirer la ville. Mais surtout, pour le droit d'entrée, on avait le droit de manger tous les gâteaux que l'on voulait et consommer tout le thé, le chocolat ou le café que l'on voulait. Donc, je peux vous dire qu'il y avait toujours la queue en bas pour pouvoir profiter de cela. Donc, la tour télé. Le Rathaus. Rathaus, ça veut dire hôtel de ville. Et l'hôtel de ville est de la fin du 19e, début 20e également, parce que la ville a entièrement brûlé en 1842. Un peu comme l'incendie de Londres en 1666, puisque c'était une ville qui était anciennement beaucoup en bois, comme Londres lorsque ça a brûlé en 1666. Et ils ont reconstruit donc par la suite un nouvel hôtel de ville qui est vraiment l'architecture typique du nord de l'Allemagne, avec une grande influence de la Hanse dont je parlais tout à l'heure. Donc l'hôtel de ville est visitable, ça ressemble à un palais en quelque sorte. Et puis, il y a le zoo Wilhelmshaven, c'est à Stuttgart. Celui-là, c'est Hagenbeck, et qui est un zoo où les gens vont volontiers se promener en famille le week-end avec les enfants. Et puis, alentour, il y a aussi plein de choses à visiter, puisque vous avez des villes comme Lübeck, etc., qui marquent vraiment un type d'architecture très prononcé. Et puis, pour certains d'entre vous qui vous intéressaient peut-être au train électrique, eh bien, il y a la plus grande maquette de train électrique connue, puisque dans le port, eh bien, on a repris des anciens bâtiments qu'on appelle Speicherstadt, c'est-à-dire que c'était des dépôts, en quelque sorte, mais avec une architecture magnifique et hanséatique. Eh bien, là, on a reproduit la ville de Hambourg pour le train électrique, mais pas que la ville de Hambourg. Vous voyagez à travers l'Europe. On peut aller jusqu'en Suède. Vous allez au Danemark à travers ces maquettes de train électrique. Vous allez également maintenant en Suisse. Et la dernière fois que j'y suis allé, la partie États-Unis n'était pas encore construite, mais il est prévu de faire cette maquette gigantesque. On y passe facilement un après-midi, et je peux vous dire que aussi bien les grands et les petits y trouvent leur compte.
quelles sont les spécialités culinaires à Hambourg?
Alors, Hambourg n'est pas spécialement réputé comme une grande ville culinaire. En revanche, il y a d'excellents restaurants et il y a aussi quelques habitudes. Il y a un dessert qui est maintenant attribué surtout à Hambourg, mais dont l'origine est danoise. Ça s'appelle die Rote Grütze, donc la grütze rouge. C'est une sorte de gelée, mais qui n'a rien à voir avec la gelée que l'on peut manger en Angleterre. Vous savez, le jelly, là, qui, on ne sait jamais de quel sens il faut mettre la cuillère, parce que ça tombe toujours du côté opposé à celui auquel on s'attend. Et c'est à base de fruits rouges. Et donc ça se mange soit avec de la sauce à la vanille, soit avec de la chantilly, ou quand on est gourmand comme moi, on peut prendre les deux en même temps. Et en revanche, comme nous sommes dans une ville portuaire, les gens mangent beaucoup de poissons. Et en parlant de poissons, justement, il y a une tradition, tous les dimanches matins, à partir de 4 heures du matin, on peut se rendre sur le fish market, c'est-à-dire le marché aux poissons, où les gens vont vendre à la criée, c'est-à-dire annoncer un prix. Mais c'est un prix, c'est très amusant, parce que le prix va aller souvent en descendant. Et donc, ils annoncent comme ça. Et alors, celui qui lève la main le premier va avoir le lot. Hein. Et puis, alors, il y a des personnes qui viennent de Hollande, qui viennent proposer leurs fleurs, des pots de fleurs. Et alors, parfois, pour attirer le client, eh bien, ils prennent des pots de fleurs comme ça qu'ils lancent dans la foule gratuitement pour que les gens viennent acheter. C'est une ambiance assez particulière, il faut avoir vécu ça. Et alors là, bien sûr, à l'issue d'une nuit blanche, c'est-à-dire qu'on a fait la fête toute la nuit, eh bien, on va terminer la nuit sur le fish market. Et eh bien, entre un sandwich au hareng ou alors un sandwich avec des crevettes, eh bien, on va quand même boire son café avant d'essayer de passer un dimanche à peu près tranquille. Voilà, donc ça c'est une particularité, pas obligatoirement culinaire, mais c'est une particularité aussi hambourgeoise.
Alors, est-il nécessaire de parler allemand pour visiter la ville?
Non. Les Allemands sont des gens qui sont très attentifs à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont bien conscients que très peu de personnes parlent allemand, malheureusement, même si c'est notre premier partenaire économique. Donc, quand on parle allemand, on a peut-être plus de chances de trouver un emploi actuellement. Mais les Allemands parlent de un anglais de très très bon niveau, et bon nombre parlent aussi français. En revanche, comme dans tout pays, quand on rencontre quelqu'un qui ne parle pas la langue, mais qui sait dire des petites choses comme bonjour, au revoir, merci, etc., on sent que la personne fait un effort, et donc on va être un peu plus disposé à parler plus lentement, etc. Donc les Allemands, d'une façon générale, ont toujours tendance à parler plus lentement, à faire des efforts pour se faire comprendre, alors qu'on sait que dans certains pays, c'est un peu moins le cas. En revanche, quand on parle allemand, on peut avoir en Allemagne quelquefois des soucis, puisque en Allemagne du Nord, eh bien, on va parler un dialecte, alors de moins en moins, qui s'appelle le Plattdeutsch. Au lieu de dire « die Frau » pour la femme, on va dire « det Frau ». Bon, faut le comprendre. Il y a une prononciation avec un accent spécial. « Vater », le père, ça va devenir « Vater ». Ou bien « Bitte schön », »,« Je vous en prie » ou « Je vous prie », ça devient « Bitte ». Donc, il faut avoir ça dans l'oreille. Mais vous allez à Berlin, vous avez la même chose, ce qu'on appelle « die Berliner Schnauze », c'est-à-dire un dialecte berlinois qu'il faut apprendre. Et quand vous êtes à Stuttgart, puisque Melun est jumelé avec Stuttgart, eh bien, il faut comprendre le swab, parce que quelquefois, les personnes là-bas parlent le dialecte swab, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut petit à petit s'y habituer. Mais je le répète, les gens ont tendance en Allemagne à faire plein d'efforts pour se faire comprendre. Et quand ils le peuvent, eh bien, ils vous parlent aussi notre langue. Voilà.
Est-ce que la vie est chère par rapport à en France?
C'est différent. C'est différent. Alors, maintenant que nous avons l'euro, c'est beaucoup plus facile de comparer. Par le passé, avant l'euro, le mark était une économie très florissante. Et je me souviens que le dernier taux de change avant que nous ne passions à l'euro, c'était 3 francs 35 pour un mark. Un mark, ça équivalait au moment du passage à l'euro à 50 centimes d'euros. Alors que le franc était à... Enfin, il fallait 6 francs 65, quelque chose comme ça, pour arriver à avoir un euro. Donc c'était une économie, c'est encore une économie qui est plus florissante que la nôtre. Mais la vie n'y est pas plus chère que chez nous. Vous avez certaines choses qui vont parfois être plus chères, mais lorsque vous allez dans un restaurant, par exemple, vous mangez très bien, de manière très copieuse, pour environ, 15 à 20 euros par personne. Chez nous, dès qu'on va dans un bon restaurant, 15-20 euros, on n'a rien, pratiquement. Et vous avez aussi bon nombre de produits de la vie quotidienne qui sont beaucoup moins chers. Le dentifrice, le savon, toutes ces choses-là sont beaucoup moins chères que chez nous. En revanche, l'essence est toujours plus chère. Ça a toujours été comme ça. L'essence est beaucoup plus chère que chez nous. Mais d'une façon générale, non, la vie n'est pas tellement plus chère que chez nous. C'est un avantage quand on veut faire du tourisme là-bas.
D'accord, bah, merci.
De rien. Merci.
Bah, monsieur Debar, de nous avoir présenté la vie de Hambourg. On vous dit à bientôt et on espère que ça vous a plu.
Voilà. Merci.
Au revoir.
Tchuss, bis bald.